Le débat. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant dans le 17-20, rendez-vous désormais hebdomadaire, 18h30, le jeudi, débat ou club de la presse. Ce sont des journalistes qui sont avec nous ce soir et ce sont les controverses à propos de la personnalité de Jean-Paul II, alors que nous sommes à jour J-7 de son arrivée en France, que nous allons aborder ce soir avec, je fais l'ordre du tour de table, tout simplement pour éviter les questions de préséance, Bruno Frappa, directeur de la rédaction du journal La Croix, Aimé Savard, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie, et Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Gérard Leclerc qui est par ailleurs signataire de deux ouvrages qui paraissent actuellement et qui vous donneront tout de suite une idée de son avis sur les controverses qui entourent le personnage de Jean-Paul II. Les deux ouvrages s'appellent « Pourquoi veut-on tuer l'Église ?» paru chez Fayard, et l'autre « Jean-Paul II, le résistant » aux éditions Bartilla. Avec vous trois d'abord, bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Alors nous allons tenter d'évoquer donc les différentes controverses qui entourent le personnage du pape. On peut déjà citer deux sondages à ce propos qui paraissent cette semaine. L'un pour l'hebdomadaire Le Point, c'est un sondage Ipsos, et l'autre pour le Figaro Magazine, c'est un sondage Sofres. Alors pour le sondage Sofres du Figaro Magazine, les Français estiment que le voyage de Jean-Paul II, contrairement à toutes les polémiques qu'on lit dans les médias, ne remet pas en cause la laïcité. Ils sont 82% à le penser, et qu'il n'y a rien de choquant à ce qu'il rappelle à cette occasion les origines chrétiennes de la France pour 81%. Cela dit, la cote de popularité de Jean-Paul II s'effrite très nettement par rapport à 1981, par exemple. Il avait alors 79% de bonnes opinions, 79% il y est resté jusqu'en 86, il est aujourd'hui à 53% selon la Sofres, 58% selon Ipsos. Et puis, dernier chiffre, Jean-Paul II est considéré comme plutôt rétrograde par 67% des personnes interrogées par Ipsos. 53% estiment qu'il dépasse son rôle lorsqu'il intervient dans des problèmes de société. 70% qu'il apporte des réponses inadaptées aux problèmes de cette fin de siècle. Alors, est-ce que l'un d'entre vous, pour commencer, a une réaction immédiate sur ces sondages, Bruno Frappa ?
Oui, pour sourire, disons que je connais beaucoup d'hommes politiques qui, après 16 ans d'exercice du pouvoir, se contenteraient d'avoir 53% de bonnes opinions. C'est quand même usant, hein, 16 ans de pouvoir. Mais enfin, je ne crois pas que nous soyons dans le domaine du pouvoir politique. Vous parlez de ces sondages. Moi, ce qui m'a frappé dans les chiffres dont j'ai eu connaissance, c'est que près de la moitié des Français manifestent de l'indifférence à l'égard de ce voyage. Et une infime minorité, je crois 7%, manifeste de l'hostilité à l'égard de ce voyage. À la limite, l'indifférence m'inquiéterait personnellement plus que l'hostilité. Je me doutais bien que l'hostilité était le fait de petits groupes qui, après tout, ont le droit d'être actifs. C'est le moment ou jamais pour eux d'être actifs, disons, par rapport à Jean-Paul II. Mais c'est cette indifférence d'une bonne moitié, disons, de la population française par rapport à un voyage de Jean-Paul II qui me pose une question sur les relations entre la société et l'Église, au sens large.
Et vous l'expliquez comment, cette indifférence ?
Bon, je ne veux pas parler de fracture intellectuelle ou de fracture mentale, mais j'ai l'impression que c'est la manifestation concrète, palpable, dans des chiffres, encore que les sondages, il faut s'en méfier, hein, toujours distinguer les opinions et les comportements. Disons qu'une bonne partie de la société française paraît s'être détachée de l'Église et n'avoir nul souci de ses évolutions, de sa position, de son message et de ses représentants. Et je crois qu'il y a un énorme chantier pour les catholiques français.
Gérard Leclerc, vous qui êtes qualifié de papolâtre dans le monde, ce sondage vous inspire quel sentiment ?
Des sentiments mêlés, je partage très... Je partage en grande partie l'opinion de Bruno Frappa. Moi, je pense toujours, j'ai toujours envie de remettre en cause le questionnaire. Les questions me paraissent toujours très mal posées. Par exemple, il y a l'éternelle histoire du préservatif. Moi, il m'aurait semblé beaucoup plus judicieux de demander aux Français quelle est la position du pape. On leur demande de prendre position par rapport à la position du pape. Moi, je crois qu'il serait beaucoup plus astucieux et beaucoup plus intéressant de leur poser la question, quelle est, pour vous, quelle est la position du pape sur la question ? je crois qu'on aurait des réponses intéressantes et significatives, parce que cette histoire du préservatif, c'est quelque chose de surréaliste. Je crois qu'il faudra bien un jour faire un livre là-dessus. Il faudra faire une étude sur les médias, le préservatif et le pape. Bon, le livre de fond, il a déjà été fait, c'est le livre de Tony Anatrella. L'amour et le préservatif, c'est le seul livre sérieux sur la question qui ait mis les choses en perspective et qui ait expliqué la position du pape et de l'épiscopat sur cette affaire. Et le message d'Anatrella consiste à dire, en deux mots, l'Église, elle est sérieuse, elle ne dit pas n'importe quoi, le préservatif n'est pas un problème en soi. Le problème de l'Église, c'est de mettre les choses en perspective, de savoir ce que c'est que l'amour humain. Évidemment, pour l'Église, l'amour humain, ça n'est pas l'amour libre-service. Bon. Alors, l'Église impose de réfléchir, de prendre des distances. Et évidemment, c'est quelque chose qui échappe souvent aux médias. Et moi, si j'ai fait deux bouquins dont vous avez eu l'amabilité de parler, c'est pour interroger les médias, remettre les médias en question. Et cela, j'ai l'impression, aux premières réactions que vous avez vous-même citées, que les médias ont énormément de mal à se remettre eux-mêmes en question.
Bruno Frappa, vous remettez en question ?
Oui, juste répliquer un petit peu à notre ami Gérard Leclerc en lui disant qu'il ne faut pas tomber dans le piège qu'il dénonce, à savoir commencer un débat sur Jean-Paul II par la question du préservatif, tout en disant que ce n'est pas une question centrale, etc. Je crois que vous tombez exactement dans le piège que vous vous proposez, si j'ai bien compris, de dénoncer dans un prochain livre, que nous attendons avec impatience. Mais je vais quand même appuyer ce que vous avez dit, pour en finir, j'espère, avec cette question du préservatif, en tout cas ce soir. Il y a l'un des deux sondages dont j'ai lu le questionnaire et les réponses. La question sur le préservatif commence comme ça. À plusieurs reprises, le pape s'est prononcé contre le préservatif. Êtes-vous plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, etc., etc. Or, il est faux de dire que le pape se soit prononcé contre le préservatif. Certes, il ne s'est pas prononcé pour, et ça, vraiment, ça aurait mérité de faire la une des journaux, mais il est faux de dire qu'il s'est prononcé contre à plusieurs reprises. Donc, il y a en effet une manière de manipuler les questions dans les sondages d'opinion qui doit nous renvoyer à la prudence nécessaire sur l'interprétation des opinions exprimées.
Mais ça va ?
Oui, eh bien, je pense en effet que nous n'allons pas passer toute la soirée sur le préservatif. Je pense que la mission du pape est d'annoncer Jésus-Christ et pas spécialement de parler du préservatif, même si je vois bien les conséquences que l'enseignement évangélique a en matière d'amour humain et donc d'utilisation du préservatif. Mais alors, bon, évitons ce travers, en effet. Revenons aux polémiques actuelles. Je suis tout à fait d'accord avec Bruno Frappa pour penser que le plus grave, c'est l'indifférence. Il reste qu'aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est plus que l'indifférence, c'est cette espèce d'hostilité au catholicisme, qui est quand même quelque chose de très étonnant. Moi, j'avoue que j'ai eu brusquement l'impression de revenir à l'époque du petit père Combes, et que ça m'a quand même beaucoup surpris. Parce qu'il ne me semble pas qu'aujourd'hui, les catholiques français, je dis bien en France, occupent la scène avec un triomphalisme, une volonté de domination qui ferait qu'il serait absolument insupportable. Et je pense que ce qu'on entend dans un petit monde, d'ailleurs assez parisien et assez élitiste, est quand même un peu exagéré. Derrière ça, il y a bien sûr quelque chose que je respecte tout à fait, hein, des opinions différentes des miennes et des opinions qui ont tout à fait le droit de s'exprimer et sur lesquelles il est intéressant de s'interroger. Je pense que d'abord il y a des raisons circonstancielles à cette poussée d'anticatholicisme, au moins autant que d'anticléricalisme, que l'on a constaté ces derniers mois. Raison circonstancielle, je pense qu'il faut revenir à ce qui s'est passé au début de l'année. D'une part, les obsèques à Notre-Dame du président Mitterrand, qui ont été perçues par beaucoup comme une ingérence de l'Église, alors qu'il y avait une sorte d'accord de l'Église, de l'État et je dirais de la famille politique de François Mitterrand, d'une certaine manière. Et deuxièmement, peut-être du voyage à Rome du président Chirac, qui a été perçu comme une manière de faire allégeance, en quelque sorte, à Rome. Mais, alors ça, c'est circonstanciel. Plus profondément, ce qui revient depuis les vieilles querelles du siècle dernier et du début du siècle, c'est, je crois, c'est des désaccords sur la laïcité. Je pense qu'une partie une petite partie de la population française considère que la laïcité consiste à mettre la religion exclusivement dans la sphère privée. Or, la religion, ce n'est pas un phénomène privé, c'est aussi un phénomène social. Je suis bien d'accord pour refuser une église triomphaliste, dominatrice, et qui voudrait imposer à ceux qui ne croient pas sa vérité. Je pense, en revanche, que les croyants, très légitimement, et les gens qui ont d'autres types d'opinions, très légitimement, quand ils respectent la liberté des autres, il est normal qu'ils s'expriment, qu'ils se manifestent, qu'il y ait des pèlerinages, qu'il y ait des... Bon. Et tout cela est parfois un peu remis en cause, et je pense qu'il y a là quand même une tradition qui vient d'assez loin et qu'on voit ressurgir à l'occasion justement de ces événements du début d'année, et puis ensuite de l'annonce des célébrations de Clovis, de l'avenue du Pape, avec tout l'amalgame qui a été fait, car en fait, il n'y a pas de célébration conjointe organisée par l'Église et l'État du 15e centenaire de Clovis. Alors donc, cet aspect circonstanciel est très important. Plus fondamentalement, je crois qu'on revient au débat sur la laïcité, sur lequel il est toujours bon de revenir, mais sur lequel aussi, il faut bien dire qu'aujourd'hui, parmi les bons défenseurs de la laïcité, il y a les croyants. Et ça, c'est en France du moins, et ça, c'est important à dire.
Bruno Frappin ?
Oui, si on jette un regard rétrospectif sur la séquence 1980-1996, premier voyage de Jean-Paul II en France, sixième voyage, je crois, avec celui-ci, et, comment dire, le malentendu de plus en plus lourd qui semble s'être instauré entre le pape et une partie des Français, on pourrait être tenté de dire que le pape a beaucoup changé en 16 ans, alors que la France serait restée immuable. Moi, je crois que ce qui est marquant, c'est que le pape, au fond, a peu changé. Son message, simplement, s'est appliqué à des événements nouveaux. Je veux dire, la planète a complètement été transformée en 16 ans. Et la France, pour sa part, a énormément changé. 1980, la gauche n'avait pas encore fait son expérience du pouvoir. 1996, la gauche est encore dans le deuil mal digéré de son échec de l'expérience du pouvoir. Moi, je suis très frappé, par exemple, de voir que parmi les gens qui manifestent parfois de manière hystérique, et je dirais carrément nulle, leur hostilité au voyage du pape, il y a des gens qui étaient très proches de François Mitterrand et dont, sans faire de la psychanalyse de bazar, je dirais qu'ils n'ont probablement pas digéré les doubles obsèques religieuses, si j'ose dire, de François Mitterrand, et qu'ils en veulent un peu à leur idole de naguère. Je crois simplement, pour être tout à fait sérieux, que de même qu'on s'intéresse à juste titre à la santé de Jean-Paul II, qui est un vrai sujet de préoccupation, d'abord pour lui, mais pour nous tous, de même, on devrait s'intéresser à l'état de santé de la France. Et je crois qu'entre les deux, il est difficile de savoir lequel est le plus malade. Je pense que la France est dans un grand état de souffrance, souffrance sociale, souffrance politique, souffrance psychologique, souffrance culturelle, souffrance idéologique. Elle n'a pas fait le deuil de sa puissance, elle n'a pas fait le deuil de la croissance à deux chiffres, etc. Et c'est vraiment une société en souffrance qui reçoit Jean-Paul II, d'où des malentendus.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec les analyses qui viennent d'être faites par mes deux collègues. Si j'entre dans le problème de l'hostilité au pape, là j'entre dans les 450 pages que j'ai écrites sur la question, que je ne voudrais pas résumer ici en quelques minutes, mais vous me permettrez quand même d'en dire un mot, parce que c'est un débat qu'on élude. J'ai étudié, pourquoi j'ai fait ce livre? J'ai fait ce livre parce que dans les médias, depuis plusieurs années, il y a une hostilité qui, de plus en plus marquée à l'égard de l'Église, qui s'est manifestée avec différentes affaires dont je traite. Et il est d'ailleurs fort intéressant de voir l'évolution de la critique des médias à l'égard de Jean-Paul II. Jean-Paul II, encore héros positif jusqu'en 1989, très largement dans la presse, et de plus en plus malmené depuis lors. Alors, il y a eu la chute du mur de Berlin, et moi, je crois qu'avec la chute du mur de Berlin, Jean-Paul II est entré dans sa troisième résistance. La première résistance, c'est la résistance de sa jeunesse, résistance au nazisme. Il a 18 ans, 20 ans, 22 ans. Deuxième résistance, c'est la résistance au communisme. C'est d'abord la période stalinienne qu'il a vécue, et ensuite les années grises, enfin les années Brejnev, où là il est en position de responsabilité comme archevêque de Cracovie. Et puis, on sait le rôle qu'il a joué dans la chute de l'Empire communiste. Et depuis la, depuis la chute du mur de Berlin, nous sommes entrés dans une troisième phase, une troisième résistance du pape, qui est la résistance au libéralisme. Évidemment, dire résistance au libéralisme, c'est un peu court. Le libéralisme recouvre des tas d'aspects. Il y a un libéralisme politique, il y a un libéralisme économique. Je dirais aussi qu'il y a un libéralisme éthique dans l'ordre des mœurs. Les choses sont plus ou moins liées. Et il s'est trouvé que, alors que le grand partenaire, il y avait deux partenaires idéologiques avant 89, qui étaient le communisme, le marxisme, et Dieu sait si ça a eu de l'importance chez nous, et jusque dans l'Église, ce problème du marxisme. Avec la chute du marxisme, la pensée de Marx et de ses épigones n'est plus ce que disait Sartre, c'est-à-dire l'horizon indépassable de notre temps, il est défait, le marxisme est défait, il ne reste plus dans l'horizon idéologique que le libéralisme. Et face au libéralisme, eh bien, nous avons Jean-Paul II, assez isolé, je dois le dire, faisant la critique du libéralisme économique, esquissant une critique de la démocratie dans son encyclique Evangelium Vitae, et pour des raisons sérieuses, je crois que c'est le débat que Jean-Paul II a posé dans Evangelium Vitae et le débat de l'avenir sur nos institutions. Ensuite, critique à l'égard de ce que j'appelle le libéralisme éthique.
Aimé Savard, vous partagez cette analyse ?
Moi, je pense qu'en effet, le pape aujourd'hui est un résistant au libéralisme. Et ce qui me surprend, c'est que on ne l'ait pas vraiment compris à gauche. Ça me surprend toujours, parce que finalement, la critique de l'ultralibéralisme économique est en train de faire les ravages que l'on sait dans l'économie mondiale, et dans l'économie française, et dans l'économie européenne, qui est en train de considérer l'homme comme une marchandise, le travail comme une marchandise. Qui l'a fait aujourd'hui, depuis l'effondrement du marxisme, au moins comme philosophie, je ne dis pas comme instrument d'analyse économique, mais au moins comme philosophie, je ne vois plus guère que le christianisme, je ne dirais pas seulement le catholicisme, je dirais la vision chrétienne de l'homme, cette conception de l'éminente dignité de tout être humain, qui soit un fondement idéologique à une critique systématique de l'ultralibéralisme. Et ça, moi, je le trouve dans les encycliques sociales, en particulier, de Jean-Paul II. Alors, bien sûr, on va me dire, il y a le libéralisme économique, il y a le libéralisme politique, vous en parliez à l'instant, on peut discuter sur les institutions, sur la démocratie, je crois qu'il faut faire aussi il faut quand même faire très attention, car si on sort de la démocratie, on tombe vite dans des choses que le pape aussi a condamnées à d'autres moments. Et il y a aussi le libéralisme que vous appelez éthique. Mais alors on a toujours tendance à penser qu'à droite, il y a le libéralisme économique et à gauche, il y a le libéralisme que vous appelez éthique. Moi, je trouve qu'il y a une assez grande convergence des deux. Je trouve qu'entre le mouvement libertaire qu'on a connu, dont la grande expansion a été les années 60, la fin des années 60, les années 70, et le mouvement ultralibéral fondé sur l'économie, on retrouve aujourd'hui bien des convergences. On retrouve d'ailleurs beaucoup de jeunes, enfin de jeunes ou de moins jeunes, hommes d'affaires de 50 ans qui ont été dans leur jeunesse des ultra-libertaires et qui sont des ultra-libéraux tout en gardant un discours ultra-libertaire, mais qui sont des hommes d'argent, de pouvoir, etc. Et en face de cela, il y a une contestation radicale qui est celle de l'évangile avant d'être celle du pape, et qu'un autre pape ferait autrement probablement, mais qui reste quelque chose de tout à fait important et tout à fait fondamental. Et je m'étonne toujours que une gauche sérieuse, je ne parle pas de la gauche des salons, mais une gauche sérieuse, n'utilise pas, entre guillemets, davantage le discours du pape qui est cette contestation fondamentale de cette évolution ultralibérale de la société, non seulement économique, mais de la société en général.
Bruno Frappin.
Oui, je voudrais nuancer un petit peu l'enthousiasme de mes deux petits camarades pour l'analyse de Gérard Leclerc, parce qu'au fond, moi, la résistance au nazisme, d'accord. La résistance au communisme, d'accord. L'opposition, l'hostilité au libéralisme, faut-il l'appeler résistance, avec le même sens donné au mot, c'est-à-dire avec le même sens donné à ce contre quoi on résiste, à ce à quoi on résiste. Bon, je ne suis pas un adepte du libéralisme à visage humain, mais je pense que dans l'état actuel de nos sociétés, on n'a pas le droit quand même de comparer strictement le totalitarisme monstrueux du stalinisme, le totalitarisme monstrueux du nazisme et l'espèce de sournoise empire du fric, pour dire les choses de manière brutale, dans lequel nous baignons aujourd'hui, et contre quoi, en effet,
cher Bruno Frappa, je n'ai jamais dit cela.
Hein. Ah ben si, vous avez dit étapes de la résistance.
Oui, j'ai dit la troisième résistance, puis la troisième résistance à un objet spécifique, et une résistance spécifique à un objet spécifique. Je n'ai jamais parlé à propos de libéralisme, de totalitarisme, je n'ai jamais dit libéralisme égale stalinisme égale nazisme. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Ah ben je ne sais pas, j'avais compris ça au début de votre exposé, mais nous réécouterons la bande. Non, simplement, dans le langage français, dans la culture française contemporaine, quand on dit le résistant, on voit immédiatement que l'on résiste à une troupe d'occupation. Hein. On voit le contraire du résistant, on voit ce contre quoi il se bat. Ça renvoie quand même à des choses extrêmement dures.
Or, moi, je pense que le troisième combat du pape est quelque chose de très dur.
Oui,
effectivement, ça n'est pas de la même nature, c'est certain, mais c'est quelque chose de dur, oui.
C'est de là peut-être que vient le malentendu entre.
Et l'hostilité qui est manifestée au pape dans ces dernières semaines montre la dureté des oppositions.
Je vois que vous résistez aussi à mon discours.
Bruno Frappa, directeur de la rédaction du journal La Croix, Aimé Savard, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie, et Gérard Leclerc, qui est éditorialiste à France Catholique. Bruno Frappa, vous nous expliquez pourquoi, selon vous, la troisième résistance, comme l'appelle Gérard Leclerc de Jean-Paul II, celle contre le libéralisme, n'est pas de même nature. Mais alors, comment expliquer que c'est justement celle-là qui produit les attaques les plus virulentes contre Jean-Paul II ?
Oh ben vous savez, quand il a résisté au communisme, les attaques n'étaient pas moins virulentes. Il y a même eu un attentat pour essayer de l'éliminer de la planète, le 13 mai 81. Je vous rappelle qu'il a failli mourir pour avoir résisté à l'Empire communiste. Non, ce que je voulais dire très, très calmement avec Gérard Leclerc, c'est que je pense que l'une des sources d'incompréhension entre une partie de l'opinion française et Jean-Paul II et son message... l'une des sources de malentendus principales porte justement sur la relation de Jean-Paul II par rapport à nos sociétés. Au fond, est-ce qu'il aime nos sociétés ou bien est-ce qu'il considère qu'en effet, pour reprendre la terminologie assez brutale quand même de Gérard, est-ce qu'il faut résister comme si ces sociétés étaient occupées par les forces du mal ? Moi, je crois qu'il y a un malentendu terrible là-dessous. Alors, s'agissant par exemple du voyage de ces jours prochains, le malentendu porte au fond sur la différence entre deux termes. Je pense que toute l'action de Jean-Paul II depuis 1978 a consisté à affirmer l'existence du catholicisme dans nos sociétés. C'est un objectif d'affirmation. De l'autre côté, ça a été interprété comme un souci de restauration. Et je crois que c'est la frontière entre ces deux mots qui provoque tout le débat actuel. Il faut dire et répéter que Jean-Paul II ne vient pas en France pour restaurer une société dominée par le cléricalisme, dans le style d'une chrétienté qui aurait été bénéfique à de certaines époques, de même qu'il n'est jamais allé dans aucun pays pour restaurer la catholicité dans son pouvoir temporel. Bon, il y a des gens qui s'imaginent pourtant qu'il vient pour cela. Et je crois que ce malentendu ne vient pas uniquement de la mauvaise foi des gens qui réagissent ainsi, il vient peut-être du fait qu'il y a une frontière nuancée entre l'affirmation et la restauration.
Je ne suis pas d'accord encore. Bon, je m'en excuse, mais enfin on est là pour débattre et pour discuter nos désaccords. Moi, j'ai toujours pris l'affaire Clovis pour une balançoire. Pardonnez-moi ce langage un peu trivial. Je n'ai jamais pris au sérieux la contestation de Clovis. Ce n'est pas parce que le pape vient pour célébrer l'anniversaire du baptême du roi des Francs que Jacques Chirac va se présenter avec la dernière promotion de l'ENA pour entrer dans le baptistère. Permettez-moi. Pour dire les choses caricaturalement, je ne vois personne qui prend cette thèse au sérieux. À mon sens, l'hostilité qui se manifeste à l'égard du pape prend prétexte de cela. Mais personne, enfin, qui croit sérieusement parmi les gens informés, parmi les gens des médias, de la politique, etc., qui pense que l'Église puisse mettre la laïcité en danger. Mais enfin, l'Église est trop heureuse d'avoir récupéré une liberté entière de la loi de séparation de l'Église et de l'État pour remettre cette loi et cette séparation en cause. Mais je pense que, bien au contraire, il y a derrière ce prétexte d'atteinte prétendue à la laïcité, il y a un débat beaucoup plus sérieux que, par exemple, citons des noms, Monsieur Thierry Messant, qui dirige le réseau Voltaire, a exprimé fort clairement dans un article récent d'un journal du soir que connaît bien Bruno Frappard, ce n'est pas celui qui le dirige actuellement, je précise, il y a des enjeux éthiques, il y a des problèmes anthropologiques gravissimes qui sont en cause. Quand on reproche au pape d'avoir des positions retardataires, c'est parce qu'il a une certaine vision de l'homme fondée sur une anthropologie biblique qui est au point de départ de notre civilisation. Et c'est cela qui, à mon sens, est la raison de fond. C'est un débat fondamental d'anthropologie sur le sens de l'homme, sur le sens de la vie humaine qui est en cause.
Et réagir à ce que vient de dire Gérard Leclerc.
Oui, je pense en effet qu'il y a de la part du pape une affirmation qui est parfois perçue comme une volonté de restauration par l'opinion. Alors, est-ce que c'est l'opinion qui comprend mal ou est-ce que c'est le pape ou ceux qui répercutent la pensée du pape c'est une question.
Mais alors, justement, depuis que je vous entends tous les trois, on a vraiment le sentiment qu'il y a toutes les polémiques autour de Jean-Paul II, que ce soit certains aspects de son message, les différentes périodes de son pontificat, c'est toujours la différence entre le message tel qu'il est énoncé, ce qu'il dit véritablement et ce qui est répercuté. Comment est-ce qu'on explique ce problème de communication? Est-ce que c'est le pape qui communique mal, alors qu'on dit que c'est un grand communicant? Est-ce qu'il communique mal et qu'on comprend pas ce qu'il dit, on comprend pas ce qu'il veut dire? Est-ce que ce sont les médias, comme certains l'affirment, qui mènent un complot quasiment anti-Jean-Paul II? La thèse existe, bon, ne fera pas.
Elle est de qui, cette thèse du complot? Je précise qu'elle n'est pas de moi.
Non,
mais bien que je mets directement en cause les médias, et je m'expliquerai là-dessus.
C'est bien parce que Gérard Leclerc, il se défend même quand il est pas attaqué.
Si, parce que déjà, l'attaque a été lancé contre moi en ces termes, c'est pourquoi je...
Moi, je voudrais revenir à la conception que le pape a de la société, et j'allais dire surtout de la nation. Il ne faut pas oublier que le pape est polonais et que la Pologne est ce qu'elle est, c'est-à-dire une nation avant d'être un État, et qui même longtemps a été une nation sans État, qui a cherché son identité dans le catholicisme, souvent d'ailleurs plus à travers une volonté d'appartenance qu'à travers de pratique dans la mesure où ça donnait une visibilité que je ne juge pas de la foi des gens, bien sûr, mais que par une observation réelle des préceptes de l'Église catholique. Moi, j'ai gardé le souvenir quand même en pleine période où les églises étaient pleines en Pologne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, dans les années de solidarité 80-81, de discussions avec les étudiants, où je m'apercevais que sur les mœurs, c'était très exactement les mêmes modes de vie qu'en Occident, et la même liberté sexuelle, d'une certaine manière. Donc, là-dessus, il y a des caricatures dont il faut se méfier. Mais il est vrai que le pape a cette vision et qu'il a eu tendance à, dans la manière dont il présente sa vision de la société, à montrer cette vision de la société et de la nation qui est souvent mal perçue par des Français ou des Occidentaux, mais surtout des Français.
Alors je dis là-dessus.
Gérard Leclerc, un instant. Bruno Frappa voulait réagir aussi. C'est le pape qui communique pas bien, Bruno Frappa?
Non, mais je crois d'abord. Ce qui perturbe beaucoup de gens, c'est que plus dur ce pontificat, et plus on s'aperçoit que ce pape est inclassable. Et moi, c'est ce qui me le rend formidable à mes yeux, c'est qu'il est de plus en plus inclassable. Or, nous aimons bien les petites catégories rassurantes. On aimerait bien pouvoir dire c'est un pape conservateur, c'est un pape progressiste, c'est un pape de gauche, c'est un pape de droite, c'est un pape prophétique, c'est un pape bureaucratique, etc. Il n'est rien de tout cela, et il est tout cela à la fois. Et c'est ce qui rend cette personnalité d'une puissance extraordinaire. Et je suis assez d'accord avec M. Donorio, qui vient de publier aussi un livre, qui dit que c'est probablement le personnage le plus important de notre siècle. J'entends un personnage positif. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur pourquoi ça passe pas, les messages, en ce moment, je crois qu'il y a la rencontre de deux souffrances, comme je le disais tout à l'heure, d'intensité inégale. Je reviens sur la France laïque, républicaine, etc., anticléricale, qui est une France qui a vécu pendant des décennies dans une autre forme de religion, qui était la religion du progrès. Bon. Cette France a vu le progrès produire des effets désastreux. Nous sommes dans la période du sida, nous sommes dans l'après de Tchernobyl, je ne parle même pas de la vache folle, je ne parle même pas du taux de croissance qui s'effondre, etc. Donc là, il y a un état de manque. Mais il ne faut pas négliger non plus l'autre partie de la question, qui est l'état des catholiques en France. Les catholiques en France sont en train de devenir une minorité, ils ne la savent pas encore très clairement, et ceux qui parmi eux le savent, comprennent bien que ça va nécessiter tout un tas d'attitudes nouvelles. Donc il y a une souffrance plus visible pour l'instant, qui est la souffrance du courant laïque minoritaire, disons de ces 7% dont nous parlions tout à l'heure, et puis il y a cette espèce de remue-ménage, qui n'est pas encore une grande souffrance, des cathos, de nous autres. Il faut savoir que pour quelque temps, on va être minoritaire dans ce pays.
Je crois que c'est là, moi, que se situe en effet la source de la divergence entre beaucoup de catholiques français et le pape. Cette vision du pape, de la nation chrétienne, etc., on l'a retrouvée, et c'est vrai qu'elle est repassée chez certains, qu'elle a été exploitée chez certains à propos du baptême de Clovis, considéré comme le baptême de la France. Je remarque que l'Église de France, l'épiscopat français, n'emploie pas cette expression. Le baptême est toujours personnel. Bon. Mais il reste qu'il y a cette idée. Et il y a, chez le pape a une grande admiration pour l'histoire de la France chrétienne, pour son apport à l'Église universelle, etc., etc. Il l'a souvent dit, il l'a écrit. Et peut-être mythifie-t-il quelque peu le passé. Car moi, ce que je constate aujourd'hui, Bruno Frappal disait tout à l'heure, c'est une grande indifférence, qui est certainement plus grande peut-être qu'à d'autres époques, mais c'est aussi un noyau de chrétiens qui sont soucieux de vivre l'Évangile, d'en témoigner, de le faire passer dans tous les aspects de la vie, qui ne s'est peut-être pas toujours trouvé de la même façon à des époques de grande chrétienté où les églises étaient pleines. Et là, il y a une difficulté qui explique les différences, au moins au niveau, entre les catholiques français, une partie des catholiques français, et le pape. Mais le pape a parfois compris ça, il l'a très bien compris quand jeune prêtre il venait en France, et qu'il faisait qu'il étudiait les nouvelles méthodes missionnaires, qu'il allait voir la mission de France, la mission de Paris, et que dans l'hebdomadaire polonais, Tegonek Pozekne, il faisait l'éloge de l'apostolat des prêtres ouvriers comme un témoignage dans un monde indifférent, et il soulignait lui déjà l'indifférence de la population française. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très important aussi à rappeler.
Alors, cher Aimé Savard, ça veut peut-être dire que ce pape n'est peut-être pas si ignorant des réalités sociales concrètes de la société d'aujourd'hui, et qu'il ne mythifie peut-être pas autant qu'on le pense la France, la société chrétienne, etc. Moi, je suis très en réaction contre le mythe polonais. Nous avons eu, en effet, un mythe polonais positif dans les premières années du pontificat. La Pologne redevenait le Christ des nations, hein, même pour les plus anticléricaux possibles. Et bon, et Dieu sait si je ne m'en suis pas plaint à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons un mythe négatif, carrément un mythe négatif de la Pologne. Et bon, je parle encore de mes bouquins, mais je me suis intéressé à ce mythe, justement, en essayant de revisiter toute l'histoire de la Pologne. Et je me suis aperçu que le problème historique polonais était beaucoup moins simple que ce qu'on dit habituellement.
Il s'est simplifié avec le temps.
Oh oui, mais enfin, il ne faut pas oublier quand même que la Pologne, d'abord, c'est une région limite. C'est la région limite avec l'orthodoxie. Il faut voir aussi que la Pologne est un pays de forte minorité orthodoxe. La plus grande minorité juive jusqu'à la Shoah, hélas. Ce qui fait que la culture polonaise, et en particulier la culture politique et catholique polonaise, est beaucoup plus complexe. Ce schéma d'une Pologne avec une foi de granit, etc., où tout est bétonné par l'Église, je crois que c'est très largement un mythe.
Avant la guerre, l'intelligentsia polonaise était essentiellement anticléricale.
Oui. Est-ce que dit Aimé Savard sur l'état des mœurs, etc., enfin, sur les conceptions des jeunes au moment où les églises étaient pleines, mais c'est vrai, mais est-ce qu'il ne croit pas que le pape le savait, ça? Il le savait d'autant plus, le pape, qu'il était éducateur de jeune, il a passé une grande partie de sa vie, encore archevêque de Cracovie, il était aumônier d'étudiants, et un de ses grands soucis, justement, c'était, je dirais, le souci pédagogique. Et s'il s'est spécialisé dans le domaine de la théologie morale, c'est précisément pour répondre de la façon la plus concrète et la plus adaptée intellectuellement, philosophiquement et théologiquement à ces problèmes. Moi, je crois que, contrairement à ce qu'on dit, si le pape est si controversé, c'est qu'il est à fond dans le coup. Et que tous les problèmes les plus aigus que la société vit, il les réfléchit depuis un demi-siècle. Et c'est pour ça que moi j'ai essayé de faire un portrait intellectuel du pape pour montrer quel avait été tout son souci intellectuel et comment justement ce souci intellectuel était posé dès le départ le problème de la rencontre de la modernité avec son aspect, ses aspects convulsifs par rapport à l'héritage chrétien.
Pardon. Ce qui, pardon Gérard Leclerc, n'explique pas nécessairement pourquoi, même si on considère que le pape est à fond dans le coup, ça n'est pas du tout l'image qui est représentée, ni dans l'esprit des Français, ni par les médias français.
Mais oui, alors là, Gérard Leclerc va nous parler des médias, c'est facile, on fait le procès des médias, on le fait nous-mêmes d'ailleurs, on fait notre propre procès, bon très bien.
C'est plus sûr de le faire entre journalistes. Sûr,
voilà, n'est-ce pas? Mais au-delà de cela, bon, c'est vrai qu'il y a des simplifications, c'est vrai que la télévision, la radio qui donnent des messages très rapides, extraits des petites phrases au milieu, ils le font d'ailleurs, ils le font aussi pour les hommes politiques, et c'est un des problèmes de cette société dite de communication. Reste qu'il y a parfois une manière de présenter le message chrétien de la part du pape, de la part de certains autres hiérarques de l'Église, qui met toujours l'accent sur la loi plutôt que sur l'amour, si j'ose dire. Moi, quand je lis l'Évangile et quand je regarde le Christ, je vois d'abord l'amour. Je vois le Christ qui parle à la Samaritaine, qui parle à la femme adultère, qui dit le premier qui jettera la pierre, etc. Alors, cela dit, le pape ne va pas encourager ni l'adultère, ni le laisser-aller des mœurs, ni etc. C'est là où je m'étonne parfois que les gens s'étonnent que le pape rappelle l'absolu de l'amour et que cela se traduit par la fidélité, par un certain nombre de comportements en matière de morale sexuelle. Reste qu'il y a au-delà de la part du Christ, dans l'Évangile toujours, la compassion envers celui qui n'est pas capable de la suivre, la loi.
Permettez-moi quand même de vous faire une objection, parce que je réagis quand même à ce genre de propos. Vous croyez que le pape, il n'a pas, les gestes et les sentiments
sûr,
de la compassion?
Bien sûr, c'est ce que j'allais dire.
Mais quand même, on donnerait crédit à toutes ces fausses images du pape, de l'homme des interdits, etc. Mais je suis désolé, même si les encycliques sont formulées dans un langage très technique, etc., quand on les étudie, moi je ne trouve pas du tout cela.
Et c'est pour ça que... Il est peut-être dommage qu'on ne puisse pas le saisir plus vite et qu'une partie de l'opinion ne puisse...
C'est notre boulot, cher Aimé Savard, d'être les intermédiaires pour faire passer le message.
Bruno Frappa, qui est privé de cigarettes, mais en plus bouillait d'impatience de vous répondre.
Pas de publicité clandestine. Sur les médias et Jean-Paul II, bien sûr, on est dans le retour du balancier. Là. Il a formidablement démarré son pontificat du point de vue médiatique. C'est quand même le pape le plus médiatique de l'histoire des médias et de l'histoire des papes, hein, pour dire les choses simplement. Donc il y a un désamour entre les médias et le pape, qui est un désamour réciproque. Je veux dire, la déception réciproque est à la hauteur de la passion réciproque du départ. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les médias, c'est vrai, on peut les critiquer dans tous les domaines, y compris dans celui-là, donc, mais faisons un autre jour un débat sur les médias. Moi, je voudrais revenir sur ce qui m'embarrasse le plus dans le débat actuel, c'est la formule « baptême de la France ». L'épiscopat français, en effet, a été très clair, en nous rappelant que un pays n'est pas baptisé. N'est pas baptisable. Quand nous serons morts et que nous serons tous au paradis, nous ne nous retrouverons pas avec la France. Nous nous retrouverons avec des Français, très nombreux, j'espère, et en tout cas, nous quatre. Hein. Pourquoi on ne peut pas baptiser un pays? Pas seulement parce qu'un pays n'est pas un individu et qu'il n'a pas d'âme, mais parce qu'un pays, on ne peut pas en donner la date de naissance. Moi, je ne crois pas qu'on puisse parler de la naissance d'une nation. Un pays naît toujours, un pays meurt toujours. La France aujourd'hui est encore en train de naître, et Dieu sait dans quelle souffrance. Et la France est déjà en train de mourir, et Dieu sait dans quelle souffrance. Donc je suis personnellement très embarrassé à l'idée qu'on puisse entretenir l'idée, ce que ne fait pas l'épiscopat français, et ce que ne fera pas, je pense, non plus Jean-Paul II.
Il n'a jamais fait.
Si, en 80 au Bourget, quand il a parlé...
Mais moi, j'ai relu le discours de l'homélie du Bourget, et je n'ai rien vu de tel.
France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême?
Oui, oui.
Eh ben, c'était la chute,
autant que je me souviens. Oui, c'était la chute, mais qui était précédée de tout un développement que tout le monde a oublié.
Je pense qu'il ne le prononcerait plus.
Vous trouvez que c'est une expression malheureuse?
Rétrospectivement, je pense que c'est une expression malheureuse. Mmh. En même temps qu'une formule...
Qui motive pour le coup, peut-être les inquiétudes aujourd'hui sur d'éventuelles atteintes à la laïcité, etc.
C'était une très belle formule. Au fond, moi, à l'époque, elle ne m'a pas du tout choqué. Mais en y réfléchissant, si on se met dans la tête de quelqu'un qui n'est pas croyant et qui est français, d'une certaine manière, nous l'englobons, nous autres catholiques, dans le baptême de la France. Et ça, je crois que nous n'avons pas le droit de le faire. Mais ce qui est très positif, quand même, dans l'attitude du pape par rapport à Clovis, moi, je n'ai pas connu personnellement Clovis, donc je n'ai pas d'opinion sur ce personnage.
Ah bon?
Mais ce qui est très intéressant, c'est que constamment, ça Gérard Leclerc a dû l'étudier plus à fond que moi, constamment le pape, quand il va vers une nation, il a le souci du rappel aux origines, pas à l'origine, mais aux origines, il ramène cette nation vers ses origines, non pas pour la coincer dans ses origines et lui dire, vous voyez comme c'était mieux avant et dans le regret, etc., mais pour en faire une espèce de marchepied vers l'avenir. Et je trouve que ce travail de pédagogie, de la réappropriation par une société de l'ensemble de son passé, de l'ensemble de sa culture, y compris pour les laïcs de la culture chrétienne, c'est un travail formidable.
Et mais ça va.
Oui, moi je voudrais dire qu'il faut revenir aussi à ce qui est central chez ce pape. Ce qui est central, c'est en effet l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Et on a souvent l'impression, parce qu'il s'est heurté à un monde très collectivisé, qu'il le voit de manière aussi collective. C'est le baptême de la nation, c'est ce dont on parlait à l'instant, et ça existe à travers un certain nombre de propos. Mais moi j'ai le souvenir, lors du voyage en Pologne de, je crois que c'est 1983, justement après l'état de guerre, dans ce voyage qui avait été très important pour la Pologne à l'époque, j'ai le souvenir de son discours aux jeunes Polonais à Westerplatte, qui est l'endroit où la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et j'étais devant, je n'avais pas pu être dans les places réservées étaient peu nombreuses, et j'étais devant, dans la salle de presse, à regarder à la télévision, et j'avais le texte, et je lisais la traduction de ce texte, et c'était un éloge de la conscience. Et c'était un éloge de la conscience qui, en dernier ressort, le pape s'adressant aux jeunes disait, en dernier ressort, suivez votre conscience. C'est tout à fait traditionnel dans l'Église, mais on l'a beaucoup oublié parce que l'Église a souvent rappelé que l'enseignement, la loi de l'Église est plus importante que la conscience, ce qui est théologiquement, je crois, faux. Or, il le rappelait par rapport au régime communiste qui voulait régenter les consciences, mais il y avait une phrase, je ne l'ai plus en tête, qui montrait que c'était vrai dans toutes les situations, y compris par rapport à la loi de l'Église. Et finalement, c'est l'Évangile même. Qui est le primat de la conscience éclairée, etc., bien sûr, sur l'obéissance aveugle et formelle, et seulement formelle, à la loi. Alors ça, je crois que c'est fondamentalement subversif, aussi subversif que l'Évangile, et que de ce point de vue, ce pape est subversif, comme on le disait tout à l'heure, pour le communisme, pour le libéralisme, et pour tous les systèmes qui prétendent imposer leur loi à la conscience de l'homme. Alors il ne faudrait pas oublier que ce pape, c'est le pape des droits de l'homme, mais que c'est aussi, il faut le dire parce que je vois que le temps passe, le pape du dialogue avec les autres religions, et de ce point de vue, il est tout sauf quelqu'un qui a une sorte d'impérialisme religieux. C'est aussi le pape qui, sur les juifs, a dit plus de choses que personne d'autre, avec une conscience polonaise très éclairée sur ce problème.
On va poursuivre ce débat dans un instant. Et dernière partie de notre club de la presse ce soir avec Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique, Aimé Savard, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie, et Bruno Frappa, directeur de la rédaction de La Croix. Alors on évoquait les difficultés de communication entre ce que Jean-Paul II dit, ce qu'on comprend, la façon dont il le dit aussi, Aimé Savard, vous en parliez. Jean-Paul II rétrograde, c'est une image qu'on entend très souvent, et juste avant cette interruption, Aimé Savard, vous évoquiez pourtant la grande ouverture de Jean-Paul II, tant pour ce qui est de l'écuménisme que du dialogue avec d'autres religions, en particulier le judaïsme.
Oui, je pense que c'est très important et que c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a longtemps reconnu, mais je m'étonne que certains de ceux qui faisaient des grands éditoriaux il y a quelques années là-dessus semblent l'avoir oublié aujourd'hui. Or, le pape, sur ce point-là, n'a pas changé. Et je pense que c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles il est exécré par les milieux intégristes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Bruno Frappa.
Il y a une autre raison, fondamentale aussi, pour laquelle il est exécré par les milieux dont vous parlez, c'est qu'il est le pape qui a affirmé le plus hautement, le plus clairement...
La liberté.
Les droits de l'homme. C'est le pape des droits de l'homme. Et pas seulement sur le plan politico-social, mais y compris sur le plan philosophique et de la conscience, comme vous l'avez dit. Et ça lui a valu quand même des oppositions extrêmement radicales. Et d'une certaine manière, je trouve assez amusant que les prétendus défenseurs des droits de l'homme, qui sont les héritiers de la révolution de 1789, qui ont célébré avec éclat en 1989 le bicentenaire de cette révolution, n'aient pas fait preuve de plus de subtilité et ne se soient pas rendu compte que Jean-Paul II, loin d'être un personnage réactionnaire, obscurantiste et médiéval, avait, comment dit,
était un allié.
Était un allié sur ce plan-là.
Sur ce plan.
Pas sur les autres, mais sur ce plan-là.
Jean Leclerc opine du chef, pour une fois, Bruno Frappat, quand
et
tu parles.
Et j'en reviendrai au fameux, à la fameuse homélie du Bourget, que moi j'ai relu très soigneusement ces temps-ci, parce que c'était le point de départ de la controverse. Certes, il y a cette formule, que d'ailleurs Jean-Paul II n'a fait que reprendre à la cornère, un chrétien libéral, entre guillemets, du 19e siècle. Bon. Dans cette homélie du Bourget, il y a tout le problème de la rencontre du Christ et du monde moderne. Et le pape n'a pas du tout une problématique de chrétienté fermée ou de problématique de médiévale, disons. Au contraire, il montre qu'il y a certains problèmes cruciaux, et il affirme avec force, comme il l'avait affirmé sur la place de la victoire à Varsovie, qu'on ne peut pas, chasser le Christ de l'histoire. Mais en même temps, il reconnaît précisément, il rappelle la devise révolutionnaire, la devise de française, liberté, égalité, fraternité, en montrant qu'il peut y avoir une sorte de parenté culturelle entre même des gens qui viennent de la filiation des Lumières et des chrétiens. Donc de ce point de vue-là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais je crois que Jean-Paul II ne nous intéresserait pas tellement en définitive s'il avait esquissé cette sorte de débat avec la modernité. Je crois que ce qui est beaucoup plus important, et à mon sens c'est le message fondamental du pontificat de Jean-Paul II, c'est qu'il a formulé au Concile l'articulation théologique de la rencontre de l'homme et de Dieu. Le père de Lubac m'a expliqué plusieurs fois comment c'était Mgr Wojtyla qui avait sauvé le schéma 13 de Vatican II en lui donnant une structure théologique, parce que ça partait dans tous les sens, etc. On n'avait pas d'enseignement théologique fondamental pour donner un lien à cela. Et c'est Wojtyla qui a donné ce lien. Donc le rôle de Wojtyla au Concile Vatican II est considérable. Et on l'a un petit peu oublié quand on a la sottise d'opposer le concile à Jean-Paul II. Mais justement, en quoi consiste cette note théologique? C'est de montrer comment l'anthropocentrisme moderne, le fait que l'homme se considère comme la valeur suprême, eh bien le pape montre que ce n'est que dans les profondeurs trinitaires et dans la profondeur du Christ, qui est le Dieu homme, que l'homme peut trouver son véritable sens et sa véritable identité.
Gérard Leclerc, on ne va pas rentrer dans le débat théologique maintenant. Il nous reste juste quelques minutes. Je voudrais quand même, parce que la question est posée dans l'ensemble de la presse et les gens se la posent légitimement. On a un petit peu en ce moment, dans les polémiques qui sont nées autour de Jean-Paul II, le sentiment d'exploiter le filon de la fin de règne. Le pape est âgé, le pape est malade, il a plusieurs malaises. Et c'est l'Express, il y a quelques jours, qui titrait « Le pape doit-il démissionner ?» Alors le Vatican a fait savoir qu'il s'agissait d'une hypothèse ecclésiastique fantaisiste. C'était les termes de Joaquin Navarro-Valls. Mais cette atmosphère de fin de règne, relayée par la presse très, très certainement, elle existe et on se pose la question de savoir si finalement, au bout de 16 ans, approchant de 80 ans, Jean-Paul II est le pape qu'il faut pour entrer après l'an 2000, pour le jubilé de l'an 2000, alors que c'est son grand projet. Bruno Frappat, peut-être un mot là-dessus.
Oui, c'est extrêmement paradoxal de constater que dans notre société qui est vieillissante, où les seniors, comme on dit, sont de plus en plus nombreux, il y a une espèce de racisme anti-vieux et anti-malade qui est en train de se développer. C'est vrai que le pape est âgé, pas extraordinairement âgé après tout. C'est vrai qu'il est fatigué, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je trouve qu'il y a une espèce de déplacement du débat entre ce qu'on lui reproche au fond et l'insistance mise à dire « voyez comme il est malade, voyez comme il est délabré », etc. Et moi je pense qu'il faudra surveiller de manière extrêmement précise la manière dont les médias audiovisuels principalement vont rendre compte des événements pour savoir s'ils passent leur temps à s'appesantir avec un effet de loupe sur les malaises ou la démarche ou les fatigues apparentes de Jean-Paul II, ou si on pourra quand même entendre son message.
C'est l'amalgame, il est vieux, donc son message est rétrograde.
Voilà, c'est la religion de la jeunesse.
Disons qu'en tout cas, le vieillissement et la maladie accentue chez n'importe quel être humain peut-être parfois un côté un peu pessimiste, et que il a pu y avoir, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est ce qui peut justifier chez certains leur réaction. Il y a eu certains, j'oserais presque le mot de dérapage, quand le pape a semblé attribuer aux Lumières la responsabilité de tous les malheurs du XXe siècle, du nazisme, du totalitarisme, du communisme.
Gérard Leclerc disait il y a un instant que le message de Jean-Paul II sur les questions n'était pas si simple.
C'est vrai, mais ça a été un peu perçu comme ça.
On l'a reproché au cardinal Lustiger, surtout.
Mais il faut bien... Oui, c'est vrai. Mais il faut bien dire aussi que quand le pape condamnait le communisme, on voyait... Pour beaucoup de bons catholiques, et puis d'autres qui ne l'étaient pas, on voyait la condamnation du système économique. Or, ce qu'il condamnait d'abord, ce n'était pas un système économique, c'était une certaine manière de traiter l'homme. Et aujourd'hui, il a la même manière de traiter l'homme, et c'est pour cela qu'il condamne un autre système différent, ou du moins qu'il le critique et qu'il dénonce ses excès. Je crois que c'est très important.
Merci à tous les trois, et mes savoirs merci, Gérard Leclerc, Bruno Frappa, et puis Bruno Frappa, donc nous aussi, nous resteront attentifs à la façon dont la visite de Jean-Paul II sera couverte par les médias, puisque souvent on les accuse de tous les maux, mais c'est aussi un bon indice pour percevoir exactement le sens du regard porté sur Jean-Paul II. Merci à tous les trois, bonsoir.